explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je fais point.
Daniel Fievé.
Quelles odeurs s'échappaient des cuisines médiévales? Comment cuisait-on le poisson et les viandes à la Renaissance? À quel point les vins d'aujourd'hui diffèrent-ils de ceux que l'on trouvait sur les tables de nos ancêtres? Au fil des siècles, en France comme ailleurs, les goûts ont évolué, les tours de main ont voyagé, les recettes se sont métissées au gré des influences des cuisines d'autres pays. Mais aussi en fonction des découvertes, les épices, les fruits, les légumes aux saveurs nouvelles rapportées par les explorateurs ont transformé les menus et incité les cuisiniers à inventer. Aujourd'hui, nous nous invitons dans les cuisines et à la table de nos aïeux pour voir comment, depuis le Moyen-Âge, les goûts et les recettes ont évolué sous l'influence de pratiques culinaires venues d'ailleurs.
Que c'est beau.
Sur France Inter.
Mais vous ne m'écoutez pas, hein, vous regardez le monde. Évidemment, ça vaut la peine d'être vu.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Patrick Rambourg.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous avez publié « Histoire de la cuisine et de la gastronomie française » aux éditions Tempus et « L'art de la table » chez Citadel et Masneau. Nous allons voir avec vous comment les goûts et les recettes depuis le Moyen-Âge en France ont évolué et ont été influencés par les cuisines des autres pays. À 17h, nous irons sur les pas d'un voyageur d'hier, André Malraux. Nous verrons que, bien avant d'être ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle, le romancier, essayiste, héros de la lutte antifasciste n'a eu de cesse de sillonner le monde. Voilà pour les découvertes du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier, préparée par Sophie Vaux et Mathieu Aoued, avec l'aide de Cyrielle Laborde.
Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les rôles, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Un porcelet, une chèvre en rôti, quelques cygnes blancs bien poivrés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit.
Voilà de quoi mettre en appétit Patrick Rambourg. Au Moyen-Âge, déjà, la cuisine française est-elle subtile? Lors des banquets, on se goinfre ou on savoure?
Ah non, on savoure. On ne se goinfre pas. Disons que si on compare avec nos banquets d'aujourd'hui, certes, nos ancêtres mangeaient beaucoup plus. Mais là, quand on parle de cuisine ou de gastronomie, même si le mot à l'époque n'existait pas, c'est la cuisine et les manières de manger et de faire de la fin du Moyen-Âge. En tant qu'historien, on a des sources qui nous apparaissent dès le XIIIe, XIVe, XVe siècle, c'est-à-dire des recettes, des traités culinaires, des livres de cuisine qui nous permettent donc d'analyser le goût de nos ancêtres, de voir comment ils cuisinaient, de voir comment ils mangeaient et surtout quelles étaient leurs préférences.
Ah, voilà qui est intéressant. Alors déjà, quel genre de plats on cuisinait? Est-ce qu'il y a des choses qu'on cuisine aujourd'hui qui existaient déjà il y a 1000 ans?
Oui, alors il faut savoir que la cuisine est une... Ce que je dis souvent ça, la cuisine est une culture en mouvement.
Ouais.
Donc ça veut dire que si on a une recette qui existe depuis des siècles, la recette en tant que telle, elle évolue. Même si son appellation est toujours là. Alors, une des recettes les plus anciennes de la cuisine française, du moins une des recettes les plus anciennement codifiées, c'est le civet de lièvre. Le civet de lièvre, il apparaît dans les traités médiévaux, donc au XIVe, XVe siècle, et il est encore aujourd'hui dans les livres de cuisine. Oui. Et on le fait encore aujourd'hui, au moment de la période de chasse, dans beaucoup de restaurants, voire dans les familles.
Mais on ne le cuisine pas exactement de la même manière.
Totalement différent.
Qu'est-ce qui a changé alors?
Le civet de lièvre médiéval est un civet de lièvre épicé déjà, oui, qui se fait avec du vin blanc. Qui ne se fait donc avec des oignons, parce que le mot civet vient de là, six petits oignons. Alors que le civet de lièvre d'aujourd'hui se fait avec du vin rouge, des lardons, des petits oignons, des croutons, et surtout, la liaison au sang. Alors que la liaison au sang n'existait pas dans la recette médiévale. Mmh. Et donc on voit bien que cette recette, elle a constamment évolué jusqu'au moment où une liaison au sang n'apparaît qu'au XIXe siècle. Mmh. Et quand vous interrogez aujourd'hui des personnes qui font du civet de lièvre, vous leur demandez la spécificité de la recette, ils vous répondent pratiquement toujours, c'est la liaison au sang.
Alors on dit souvent que les épices étaient utilisées au Moyen-Âge pour cacher les goûts des viandes avariées. C'est vrai ou pas ?
Non, c'est faux. Ça, c'est une idée reçue. On a plusieurs idées reçues comme ça qui circulent quand on parle de la cuisine, de la gastronomie, de la table. C'est une erreur des historiens du 19e siècle qui, quand ils ont lu les recettes du Moyen-Âge, ont vu certes beaucoup d'épices dans ces recettes, mais ils n'ont pas compris le sens de ces épices et pourquoi il y avait des épices. Non, pour une raison toute, il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons, les épices, elles coûtaient très cher. Mmh. Elles venaient quand même de très loin. Elles n'étaient pas européennes, ces épices. Elles venaient de l'autre côté de la Méditerranée, voire plus loin. Mmh. Et donc, ceux qui pouvaient s'acheter les épices, c'était les riches. Ceux qui avaient les moyens financiers.
Donc ils avaient les moyens d'acheter de la viande qui n'était pas avariée, c'est ce que vous nous dites.
Exactement, la viande n'était pas avariée, et d'autant plus que la viande, comme on n'avait pas de réfrigérateur à l'époque, pas de congélateur, aucun moyen de conservation comme les nôtres d'aujourd'hui, l'animal, on le maintenait vivant pratiquement jusqu'à la fin. Ouais. Et on le sacrifiait avant de le manger. Et donc la viande était hyper fraîche.
Oui, c'est ça, la viande était finalement beaucoup plus fraîche.
Exactement.
Quelle idée déformée on se fait du Moyen-Âge en pensant qu'il mangeait des choses absolument frelatées.
Et on peut même aller plus loin avec le monde médiéval, parce que dans les villes, et notamment dans les grandes villes comme Paris, il y avait déjà des métiers de bouche, un grand nombre de métiers de bouche, qui faisaient déjà des plats prêts à être consommés, comme aujourd'hui on va acheter chez le traiteur ou on va manger dans un McDo ou un fast-food.
Est-ce qu'on a une idée aussi des goûts de l'époque ? C'est-à-dire même en fonction des pays d'Europe, est-ce qu'on sait si en France on aimait la mer, l'acide, les saveurs que l'on préférait ?
Oui, on a une idée par rapport à quelques pays européens. Alors, il y a une internationale du goût des épices, ça c'est très clair. Ouais. Dans toutes les cours européennes, toutes les élites européennes à ce moment-là, 15e siècle, on mange épicé.
Ouais.
On mange épicé, sauf qu'il y a des différences entre les Anglais, les Français, les Allemands et les Italiens.
C'est-à-dire qu'on ne choisit pas les mêmes épices ?
On ne choisit pas les mêmes épices et on a une différence, par exemple, pour les Français sont plus attachés au gingembre et à la cannelle. Les Italiens seront plus attachés au safran. Et il y a des différences au niveau du goût. Par exemple, on s'est rendu compte que les Italiens aimaient le goût doux, sucré, parce qu'ils avaient l'habitude de boire déjà des vins assez doux. Les Français, eux, du moins la France au-dessus de la Loire, de la région parisienne, c'était plutôt une cuisine plutôt acide ou acidulée. Mmh. Parce qu'ils avaient l'habitude de boire un vin blanc, le vin François, comme on disait à l'époque, qui était vraiment pierre à fusil, acide.
Ouais.
Alors que les Allemands, c'était entre les deux, aigre doux, c'est très surprenant. Comme un peu la cuisine asiatique d'aujourd'hui. Ouais. Donc on voit, et les Anglais, c'est du doux aussi. Alors là, on se pose la question, parce que pourquoi les Anglais avaient une préférence pour un goût plutôt doux ou sucré? On s'est rendu compte que la bière qu'ils buvaient était douce aussi. Mmh. Et donc on voit bien que les boissons que l'on boit à ces époques, quelque part, formatent le goût culinaire.
Pas admettre, sire, c'est qu'on se retrouve devant une véritable crise paysanne.
Ah non, 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 non. Ne commencez pas avec vos crises paysannes. On est là pour parler du vin. Jusque-là, il était bon.
Évidemment, il venait de Rome.
Oui, au prix que vous le touchez, il peut être bon, hein.
Il me semble que c'est quand même minimum de s'intéresser aussi aux petites exploitations locales.
Ah, mais moi, je veux bien m'intéresser à tout ce que vous voulez. Mais le pinard est immonde.
Mais il est pas immonde, sire. Faut arrêter de jouer les fines bouches, hein.
Il y a des très bonnes choses. Seulement, il faut y mettre un peu du sien aussi.
Vous avez pas pris le temps de vous habituer aux fruits.
On n'a pas le même sur les carômes, nous. Ici, le raisin, il vient un peu plus acide.
Il est un poil plus âcre aussi.
Plus âcre ou plus âpre ?
Non, âcre.
Moi, j'aurais dit âpre, moi.
De toute façon, il est âcre et âpre, il faut être honnête.
Il est âpre,
oui.
De la qualité du vin sur la table ronde des chevaliers du royaume de Camelot. Mmh. Est-ce qu'on sait si le vin que l'on buvait à l'époque du Moyen-Âge est proche de celui que l'on boit aujourd'hui ? Autrement dit, si on nous le servait, qu'est-ce qu'on en penserait ?
On n'en penserait pas du bien. On ne pourrait pas boire, je pense, le vin médiéval parce que c'est un vin très jeune. C'est un vin qui n'est pas de garde, en fait. C'est-à-dire, on consommait le vin à l'année, d'une vendange à une autre vendange. Dès lors qu'une nouvelle vendange avait été faite, l'autre vin était plus ou moins transformé en vinaigre et on ne savait pas trop le conserver, en tonneau certes. C'est un vin donc qui pouvait être donc acidulé, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le vin blanc, mais pour les vins vermeils ou les vins un peu plus chauds, comme on le disait, ceux qui venaient plutôt du sud de l'Europe, donc un vin beaucoup plus doux. Il faut savoir que on a déjà les grands vignobles français qui sont installés, hein. La Bourgogne, la Gascogne, comme on disait à l'époque, c'était pas le Bordelais, des vins des Pays de la Loire, et que le vignoble français à cette époque était plus au nord. Des villes comme Laon, Paris était une ville viticole, Amiens, toutes ces villes du nord de la France étaient des villes viticoles.
Ça tient au climat qui n'était pas le même ou ça tient à la qualité du raisin qu'on ne voulait pas pareil?
Alors le climat a beaucoup changé, puisqu'on parle ces derniers temps, on nous annonce qu'on va peut-être replanter des vignes plus au nord de la France parce que le climat se réchauffe. Donc on a eu des périodes peut-être de réchauffement et des périodes un peu de glaciation comme on dit. Ça tient aussi au fait que le vin, la perception du vin à l'époque était différente de la nôtre. Outre le phénomène de la chrétienté, de l'Église, le vin comme joue un rôle important, il y a aussi le fait qu'on avait plus confiance dans le vin, voire dans la bière, que dans l'eau.
Et oui.
Parce que boire de l'eau à l'époque, c'était pas si simple que ça. Ouais. Alors que le vin, il y a une transformation, il y a une fermentation, la bière c'est pareil. Donc au moins on était sûr de boire un liquide qui n'allait pas trop nous déranger au niveau de la santé.
Donc à l'époque c'était presque un médicament de boire du vin, c'est ce que vous nous dites.
C'était perçu comme un médicament. Et n'oublions pas que le vin de l'époque était très faible en degré d'alcool par rapport aux autres.
Donc, alors comment on le sait ça? Comment on sait le degré d'alcool de bouteilles qui n'existent plus évidemment non,
alors
aujourd'hui?
Alors déjà il n'était pas en bouteille,
oui, c'est ça, vous avez raison,
en tonneau. Et on le servait dans des brocs. Alors il y avait le tavernier qui était là. Si on voulait acheter un vin à brocs, on avait le tavernier, celui qui fait taverne. C'était pas forcément un lieu comme aujourd'hui on dirait un bar ou un cabaret. Toute personne qui avait un vignoble pouvait faire taverne, c'est-à-dire qu'au moment où son vin était prêt, hop, il annonçait et le passant venait avec son broc, il achetait son vin. Donc en fait, on a des écrits, on a des textes qui nous informent que le vin était beaucoup moins fort que celui d'aujourd'hui.
À la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, les notables accordent une place importante à la gastronomie et décident des menus avec le plus grand soin.
Je verrai bien également de la carpe.
Bien sûr. Votre seigneurie aura de la carpe à l'écaille blanche.
Pas de la carpe rousse, et encore moins de la jaune.
J'aimerais mieux qu'elle ne vienne pas des fossés de la ville. Mmh. On en voit des milliers qui grouillent comme larrons sur le pont, mais mieux vaut ne pas manger cela.
Mmh. On vous proposera de la carpe de bonne eau, soyez-en sûr. Sinon le poissonnier d'eau douce perdra votre clientèle. Je me charge de faire bien cuire la carpe, car carpe mal cuite, c'est invité au lit.
Voyez à ce qu'on transporte bien la carpe. Si vous voulez porter toute une journée une carpe vivante, entortillez-la dans un foin mouillé et mettez-la en un sac bien fermé sans lui donner d'air et le ventre dessus.
Et puis pour mouiller le tout, je servirai là un joli potage.
Bonne idée.
Tout un art que de transporter cette carpe et puis de la cuire juste comme il faut. D'ailleurs, selon que l'on était en Allemagne ou en France, la cuisson parfaite n'était pas la même.
Ah oui, tout à fait. On a même un auteur, un bourgeois de Paris qui a écrit un traité qui s'appelle Le Ménager de Paris. Il a écrit ça pour sa jeune femme, pour qu'elle ait des connaissances en cuisine. Et il explique très clairement, là on est dans les années 1393, il explique que à une même table, si vous avez des Allemands et des Français, et si la carpe est cuisinée par des Français, elle ne sera pas considérée comme assez cuite par les Allemands. Et les Allemands se relèveront pour aller faire cuire la carpe. Là, on a vraiment une distinction culturelle dans la manière de cuire les aliments. Déjà, au XIVe siècle, entre les Allemands et les Français. Ouais. On voit aussi la même chose avec les Anglais dans la manière de découper le saumon. Là, c'est un témoignage du XVIe siècle. Pierre Belon-Dumont, si je me souviens bien, nous explique très clairement que les Français coupent la darne en tronçons. Et ça, on l'a fait pendant des siècles en France. Et alors que les Anglais coupent le saumon en filet, comme on le fait aujourd'hui, depuis les années 70-80, suite à la nouvelle cuisine. Donc on voit là aussi des distinctions dans la manière de découper les produits, et même le découpage de la viande entre le cuisinier français et le cuisinier anglais, c'était pas la même chose. Donc déjà, rien que ça, ça nous fait comprendre que les manières de manger, les manières de cuisiner diffèrent à ces époques d'un pays à un autre.
Le temps d'un bivouac passe à table avec l'historien Patrick Rambourg à la découverte des évolutions et des influences de la cuisine française au fil des siècles. Nous sommes en direct et pour nous adresser une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. C'était À la folie, Juliette Armanet sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Oh, tu es bien pressé, toi.
Oh, encore des pommes de terre?
Et pas beaucoup. Ce sont les dernières. C'est tout ce qui reste des couffins que nous avez donné à la section des enfants trouvés.
Oui, mais beaucoup, pas beaucoup, j'en ai assez. Je refuse de me nourrir de racines. Je ne suis ni un cochon, ni un indigène.
Mais tu ignores donc, malheureux, que ce précieux tubercule peut être cuisiné de 20 façons différentes et toutes plus délicieuses les unes que les autres, qui nous fournit généreusement non seulement de la farine, des fécules, des médicaments, mais encore une excellente eau de vie. T'es le roi Louis XVI, lui-même, qui n'est pas un très bon politique, mais qui est un fin mangeur, eh bien, il se nourrit exclusivement de pommes de terre.
Dis, Baumier, si tu les veux pas, donne-les-moi.
Non, je les mange par discipline révolutionnaire.
Extrait du film La Marseillaise de Jean Renoir. On l'a compris, hein, l'action se situe à la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, Patrick Rambourg, la pomme de terre est connue depuis un moment en France, mais tout le monde ne s'y est pas encore fait, oui. On dirait.
Oui, c'est exactement ça. La pomme de terre fait partie de ces nouveaux ingrédients qui sont arrivés d'ailleurs, en fait. Ouais. Notamment quand on a découvert le Nouveau Monde, les Amériques. Là, arrive dès le XVIe siècle, donc, la pomme de terre, la dinde, la tomate, entre autres produits. Plus tard arrivera, alors de l'Amérique d'Amérique du Nord, le topinambour, hein. Donc là, la pomme de terre, elle vient d'Amérique du Sud. Alors, des produits vont être acceptés assez facilement, comme la dinde, très très tôt. On va la trouver assez rapidement sur la table de Catherine de Médicis, par exemple. Pourquoi ? Parce que le volatile ressemblait déjà à des oiseaux
connus
en Europe. Mmh. Ce n'est pas le cas de la pomme de terre, qui va avoir quand même une histoire assez difficile en France. Pourquoi ? Déjà, on va la confondre avec d'autres produits de la terre, donc pomme de terre, hein, donc quelque chose qui est sous la terre. Donc déjà, l'idée que c'est sous la terre, c'est pas très très bien, parce que d'une façon générale, quand on a des produits sous la terre, comme on est un peu superstitieux à l'époque, on pense qu'on est plus près du monde de l'enfer ou du diable, oui. Et moins près du monde du paradis et de Dieu, qui est plutôt dans le ciel et dans l'air. Mais cette fameuse pomme de terre va être confondue avec la truffe, par exemple, va être confondue avec des sortes de rhizomes, etc. Mais surtout, cette pomme de terre, quand elle arrive, elle va être une nourriture de famine et une nourriture de cochon,
oui.
Même pour les plus pauvres. Et donc, manger ce tubercule en période de famine, certes, ça peut sauver notre vie, notre peau, mais quand on n'est pas en période de famine, quand on n'est pas en période de guerre, on ne veut plus manger des pommes de terre, parce que ça nous rappelle trop ces périodes difficiles, et surtout, l'être humain ne veut pas être considéré comme un cochon.
Mais ça va évoluer, hein. Elle va acquérir ses quartiers de noblesse.
Elle va acquérir ses quartiers de noblesse, d'abord parce que déjà les pays limitrophes vont être plus en avance que la France, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, en Irlande. Très très tôt, ils ont compris que c'était un bon moyen de nourrir la population. Et puis, les difficultés qu'il va y avoir aussi de part et d'autre, famine, guerre, etc., vont faire évoluer la pomme de terre. Et surtout, on a un personnage qui va aider, c'est Parmentier. Ce personnage du XVIIIe siècle, il va avoir une idée en tête. Puisque les Français ont du mal avec la pomme de terre, on va faire en sorte de transformer la pomme de terre en pain. Pourquoi ? Parce que le pain est l'aliment totem des Français. Mmh. C'est-à-dire, c'est plus que culturel, c'est physiologique, c'est psychologique. C'est-à-dire que si le Français n'avait pas son pain sur la table, il pensait qu'il mourrait de faim. C'est vraiment quelque chose qui est très très fort, en fait.
C'est presque du marketing qu'il fait, Parmentier.
C'est exactement ça, oui. C'est-à-dire qu'il va faire, il va faire des essais avec d'autres scientifiques, etc. On va mesurer. Alors déjà, il faut transformer on a essayé avec la fécule de pomme de terre. C'était pas génial. On va essayer avec la purée de pomme de terre qu'on mélange avec de la farine. On fait des cuissons, on essaie, on écrit des dossiers, etc. On fait goûter. Bon. Globalement, ça a pas bien fonctionné. Mmh. Sauf que malgré tout, comme vous l'avez dit, c'est du marketing, c'est de la publicité, et progressivement, ça va rentrer dans l'esprit des Français. Ouais. Et à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, la pomme de terre, elle est sur toute étable, aussi bien celle du pauvre, du bourgeois que du riche et du grand restaurant. Ouais. Et donc là, c'est une grande réussite. Ouais.
On entend parfois dire que ce sont les Italiens qui ont apporté leur raffinement à la cuisine française. Selon la légende, un cuisinier italien aurait accompagné Catherine de Médicis au XVIe siècle lors de son mariage avec le futur Henri II. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait apporté savoir-faire et raffinement. Est-ce que vraiment le savoir-faire à la française nous vient d'Italie ?
Non, c'est vraiment une légende. Ouais. Alors, c'est une légende qui a été construite au XVIIIe siècle. Pourquoi ? Donc là, on parle de Catherine de Médicis, 16e siècle. Hein. Donc, une légende au 18e siècle, parce qu'au 18e siècle, on veut absolument que la cuisine soit considérée comme un art. Or, à cette époque, on séparait l'artisanat entre ce qu'on appelait les arts majeurs et les arts mineurs. Par exemple, la musique et la peinture considérées comme un art majeur, mais la cuisine considérée comme un art mineur. Et donc, on va à un moment donné décider de comparer musique et cuisine pour essayer de mettre en avant cette idée. Et il fallait trouver un lien avec le monde antique. Et comment trouver un lien avec la grande cuisine française du XVIIIe siècle, avec le monde antique, donc Rome entre autres, en passant par une personne qui avait gouverné en France, donc Catherine de Médicis, qui va être reine de France. Ouais. On a trouvé ça. Et donc, cette idée, elle est passée comme ça, pratiquement comme une lettre à la poste. Aujourd'hui encore, on l'entend circuler, mais historiquement, c'est totalement faux. Mmh. Ça ne fonctionne pas. On ne sait même pas si Catherine est arrivée en France, à la cour de François Ier, avec des cuisiniers. En tout cas, quand elle arrive, c'est une adolescente. François Ier, c'est un grand bonhomme. Mmh. Et il aime bien manger, il aime manger à la française, et il est difficile de concevoir qu'une jeune adolescente puisse du jour au lendemain décider que le roi François Ier mange à l'italienne. Mmh. Même si l'Italie a influencé les arts, ça c'est vrai. Et puis, il faut savoir que les liens entre la France et l'Italie sont là depuis très longtemps, bien avant l'arrivée de Catherine, ouais, dès le Moyen-Âge.
C'est ça. Et à la Renaissance, l'identité culinaire nationale s'affirme pour de bon.
Elle s'affirme pour de bon, mais on ne peut pas encore parler d'une hégémonie française au niveau mondial. C'est-à-dire qu'à cette époque, il y a de très bons cuisiniers français, de très bons cuisiniers italiens, de très bons cuisiniers allemands, mais on commence à mettre en avant l'art de cuisiner à la française. On dit que les cuisiniers français savent bien rôtir les viandes. Les Italiens le disent, les Allemands le disent. Les voyageurs étrangers qui viennent en France marquent dans leurs notes ou dans leurs guides des éléments d'information comme ça sur la cuisine ou les manières de manger à la française.
On mange de bons potages, des pâtés, des gâteaux de toutes sortes. Hein, c'est ce que constate le cardinal d'Aragon passe par la France. De quelle manière les goûts évoluent-ils ? Vous nous avez dit qu'au Moyen-Âge, on avait une petite préférence en France, en tout cas pour l'acidulé, pour l'acide. Mmh. Est-ce que avec le temps, ça passe ?
Oui, ça va changer. Le goût médiéval va progressivement disparaître. C'est-à-dire qu'on va, dès le XVIe siècle, on va diminuer le nombre des épices. Hein. On n'aime plus trop le goût des épices, elles ne vont pas disparaître. Le goût acidulé va progressivement disparaître aussi. Et on va aller vers un goût doux, plus sucré. Alors, ça va être l'excès. Parce qu'il va y avoir un véritable phénomène de mode avec le sucre. Oui. Le sucre, qui était considéré avant comme un médicament, va devenir, avec le XVIe siècle, un élément de la douceur, de la douceur au niveau du goût, une saveur appréciée chez les élites. Et les Italiens vont inonder les marchés européens avec le sucre, puisque le commerce du sucre, Venise et d'autres villes italiennes, et d'un seul coup, pour tempérer le goût acidulé de la cuisine médiévale, on va sucrer. Mais on va sucrer le poisson, on va sucrer la viande.
On en met partout. Le sucre n'a pas sa place comme aujourd'hui, non, à la fin du repas, non, au dessert. Non. C'est un peu tout le long. Et il va entamer une sorte de migration dans les menus.
Exactement. Alors d'abord, il y a une réaction. Il y a une réaction dès le milieu du XVIe siècle. On a notamment des médecins, Jean Brurin-Champier, qui était le médecin de François Ier, qui va dire: attention, on sucre tout, on n'a plus le goût des aliments, on n'a plus le vrai goût des aliments. Et donc, au XVIIe siècle, on a ce discours. On veut une cuisine avec le vrai goût des aliments. La seule différence avec aujourd'hui, c'est que quand on parle d'un vrai goût pour un produit, comme la tomate par exemple, nous on se réfère à l'industrie agroalimentaire qui nous a produit plus ou moins cette tomate. À l'époque, quand on parle du vrai goût des aliments, par exemple, Nicolas de Bonnefond, qui était valet de chambre de Louis XIV, a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les délices de la campagne ». Il nous explique qu'il veut un potage de poireaux qui ait le goût de poireaux, un potage de choux qui a le goût de choux. Il écrit ça dans les années 1650.
Ouais. Le sucre masque tout.
Le sucre masque tout. Donc là, on a un phénomène, c'est-à-dire qu'on va progressivement enlever le sucre de tous les plats dits, nous, aujourd'hui, salés, viande, poisson, etc., et qu'une migration va se faire progressivement pour que le sucre aille à la fin du repas à la française vers ce qu'on appelle nous aujourd'hui le dessert. Mmh. Et c'est sur ce mode-là qu'on fonctionne encore aujourd'hui. Mmh. Notre menu à la française, c'est exceptionnel de manger quelque chose de sucré en ouverture de repas, à part le melon, parfois, quelques fruits, ça peut arriver. Mais nous, en France, du moins, on aime le sucré plutôt à la fin.
Ouais. On se serait croisé au Moyen-Âge, il n'y aurait pas eu de dessert à la fin du repas dans la taverne ?
Si, il y a des desserts, il y a les crêpes existent, les galettes existent, les gaufres existent, les gâteaux existent, mais le sucre était très cher et très rare. Donc si on sucrait légèrement, pas trop, c'était principalement soit avec des fruits, soit avec du miel.
Ouais. L'art de la table aussi évolue, évidemment, oui. Au fur et à mesure des époques, avec l'évolution de la cuisine. Vous en parlez dans votre livre « L'art et la table » chez Citadel et Masno. Alors, par exemple, en France, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, il faut remonter quand même quelques siècles en arrière, on mangeait avec les doigts. Ouais. Alors, mais à qui on doit la fourchette, cette fois ?
Alors, en France, on mangeait avec les doigts au Moyen-Âge, encore à la Renaissance, mais dans tous les pays européens. Ceux qui étaient le plus en avance avec la fourchette, c'étaient les Italiens.
Ah, alors, cette fois-ci, c'est les Italiens qui nous ont donné
Non, mais parce que les Italiens, très très tôt, ont développé la culture de la consommation de la pâte, en fait, des pâtes. Et manger des pâtes avec les doigts, c'est compliqué. Donc, ils avaient trouvé un moyen, ils appelaient, c'était une sorte de petite fourche, en fait, une petite fourche de branches pour manger les pâtes. Alors, ils étaient très en avance par rapport à leurs voisins français et par rapport aux autres pays. Mais en même temps, la fourchette, elle existait déjà bien avant, dans le monde antique. Alors, en France, faut pas dire non plus que c'est Catherine de Médicis qui a apporté la fourchette. Ça ne fonctionne pas non plus. D'accord. La fourchette, elle est arrivée par d'autres moyens, probablement. On a essayé à la cour. Alors, par exemple, Henri III a imposé la fourchette à la cour de France. Donc, on est au XVIe siècle. Sauf qu'on s'est moqué de lui, parce que et de ses mignons aussi. On s'est moqué de lui parce que tout qu'on fait manger avec une fourchette, c'est pas naturel, c'est culturel, il faut apprendre. Ouais. Ça demande toute une éducation. Et manger avec une fourchette, quand on a à l'époque une fraise, donc cette sorte de collerette qui dépasse, manger des petits pois ou des asperges et autres, ça tombe sur le côté. Alors on s'est moqué. Et dès lors que, Henri III a été assassiné et a disparu, Henri IV
on a rangé les fourchettes.
On a rangé les fourchettes parce qu'Henri IV, lui, voulait montrer son côté très masculin. Et la fourchette, dans un premier temps, a été considérée comme un outil féminin.
D'accord. Comme quelque chose d'une sorte de raffinement excessif.
Exactement. Trop. Et il a fallu deux temps, malgré tout, pour l'acceptation de la fourchette. D'abord, elle arrive sur la table. Elle va permettre de prendre dans le plat commun. Mais on va continuer à manger avec les doigts. Ensuite, le deuxième temps, c'est toute l'éducation. Utiliser la fourchette pour porter l'aliment à la bouche. Mmh. Et par exemple, on a des gravures qui nous montrent Louis XIV, donc là on est au XVIIe siècle, qui mange avec les doigts, pendant que la reine mange avec une fourchette. Donc on voit bien que d'abord, c'était les dames.
Elles ont mangé plus proprement que nous.
Oui, nous on a aimé les doigts assez longtemps.
C'est ça.
En fait, voilà.
Alors, plus rapidement, mais au XIXe siècle, les Russes aussi ont des influences sur notre façon de nous comporter à table et la façon dont on sert les plats. Quand on va au restaurant aujourd'hui, évidemment, tout nous est servi l'un après l'autre, pas tout en même temps sur la table, encore que certains restaurants le font. C'est aux Russes qu'on doit, à partir du XIXe siècle.
Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est aux Russes, mais en tout cas, le service, on le nomme le service à la russe.
Ah, voilà.
Voilà. On n'en connaît pas trop l'origine, c'est toute la difficulté. On sait à quel moment il apparaît, et c'est vrai qu'on fonctionne encore sur ce système aujourd'hui. Alors, je suis obligé de parler un petit peu du précédent service, dit à la française, qui s'est imposé durant plusieurs siècles, qui consistait à porter tout un ensemble de plats en même temps sur la table. Donc, la table était couverte de plats. Ça, c'était fin Moyen-Âge, 16e, 17e, 18e siècle, même encore au tout début du 19e siècle. Et dans le courant du 19e siècle, il y a ce service qui est apparu, dit à la russe, où là, les plats sont amenés les uns après les autres. Alors, c'est une grande révolution. D'abord, parce que les menus qui sont constitués ont déjà moins de plats. Deuxième révolution, ça dégage de l'espace sur la table.
Oui.
Donc du coup, les verres apparaissent sur la table parce qu'ils n'étaient pas sur la table avant. Et du coup, la vaisselle dite bourgeoise, comme on a tous connu cette vaisselle en porcelaine, en faïence, tous ces verres que l'on a dans les armoires de nos grands-mères, par exemple, la table se couvre de vaisselle. Plusieurs assiettes superposées, plusieurs couverts, plusieurs fourchettes, plusieurs couteaux, plusieurs verres. Le verre à vin blanc, le verre à Alsace, le verre pour le Bourgogne, le verre pour le Bordeaux. Tout ça apparaît dès lors qu'on a changé de service. Mmh. Aujourd'hui, on continue ce service, sauf que la grande différence, c'est que aujourd'hui, on sert à l'assiette. Alors qu'avant, c'était au plat.
D'accord. Oui, c'est-à-dire qu'on nous amène l'assiette déjà pleine et on ne nous sert pas avec la marmite au restaurant, en général. On va s'intéresser, dans la suite de cette émission, aux plats de nos régions. Et puis, vous répondrez en fin d'émission, Patrick Rambourg, aux questions de nos auditeurs qui arrivent sur la page de l'émission, sur franceinter.fr et la page Facebook du Temps d'un Bivouac.
T'as vu ce qui les attend, la cuisine ? Un vrai souper de roi.
Foie gras truffé.
Du Périgord, donc de chez moi.
Prince, vous savez vivre. Être traité par vous, c'est presque vous appartenir.
Et regardez la suite. Asperges en petits pois, cul d'artichaut à la ravigote, saumon à la royale, filet de perdrix à la financière.
À votre table, on ne peut pas penser à changer de régime.
Oui, en France, les régimes passent et la cuisine demeure.
Tied up right now, c'était Parcells sur France Inter.
En général, ici, on n'achète que des artichauts violets de Provence, violets qu'on appelle, et on cercle le cœur et on les fait en barigoule. C'est-à-dire, on va les faire avec une suée d'oignon, de lard frais, parce qu'on n'utilise pas le lard fumé ici trop en Provence, avec le lard frais, de l'oignon, de l'ail, des carottes, un peu de thym, de laurier. Après, une fois que ça s'est bien sué, presque roussi, vous savez, ce qui fait un peu la différence avec la cuisine provençale, c'est qu'on est à la limite du bien roussi, vous voyez, mais à la limite du brûlé, les oignons, ce qui donne beaucoup de goût et de caractère. Ensuite, on jette les artichauts dedans, on mouille avec un petit peu de vin blanc, on les laisse cuire comme ça doucement, et aux trois quarts cuisson, presque à la fin cuisson, parce que le violet cuit très vite, c'est un artichaut qui est tendre, on y jette un peu du basilic haché dedans, et voilà. C'est excellent.
Ah, ça, on veut bien le croire que c'est excellent, ça donne l'eau à la bouche. Nous sommes toujours avec Patrick Rambourg, auteur de Histoire de la cuisine et de la gastronomie française aux éditions Tempus et L'art et la table chez Citadel et Masno. Et nous allons un peu rester dans l'hexagone pour cette partie de l'émission avec vous, Patrick Rambourg, parce que on a vu les influences qui pouvait y avoir des autres pays sur nous, ce sont des échanges, mais au sein même du pays, on voit se dessiner aussi des cuisines régionales. Oui. Alors, à partir de quand elles apparaissent et elles s'identifient, ces cuisines régionales ?
Alors, comment dire, il y a plusieurs moments dans l'histoire. Alors, officiellement, quand on parle de cuisine régionale en France, c'est au 19e siècle, du moins fin 18e, début 19e siècle, quand les régions se mettent à publier des livres de cuisine. Alors, les premières régions, l'Alsace, par exemple, et la Provence. Ce n'est pas anodin, parce que ce sont l'Alsace, une région frontalière, la Provence, une région à forte identité culturelle, bien sûr. Hein, donc, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on se positionne par rapport au centralisme parisien. On est quand même un pays très centralisé, et même pour la cuisine, c'est pareil. Pendant des siècles, quand on parle de cuisine française ou de grande cuisine française, c'est d'abord et avant tout la cuisine parisienne. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que la cuisine régionale n'existait pas avant.
Ouais.
C'est-à-dire qu'elle commence à être reconnue à partir du 19e siècle. Et donc, chaque région, pendant tout le 19e siècle environ, va produire son livre de cuisine, la cuisine du Poitou, la cuisine du Bordelais, etc. etc. Mmh. Et jusqu'à même voir créer des nouvelles recettes, voire aller voir des cuisinières dans au fin fond de la campagne pour essayer de récupérer des recettes pour créer cette culture régionale. Ouais. Mais en même temps, des cuisines régionales sont beaucoup plus présentes avant les livres de cuisine. Je pense notamment à la Provence. La Provence, par exemple, a très très tôt envoyé ses produits sur la capitale. On a déjà, au XVIIe siècle, des boutiques qui vendent de l'huile d'olive de Provence. Mmh. Il faut savoir aussi que la cuisine provençale est une des cuisines régionales françaises les plus connues au niveau international. Déjà, c'est la cuisine du soleil, c'est la cuisine du sud de la France, mmh. c'est la cuisine de la Côte d'Azur, c'est la cuisine des palaces. Et pendant très très longtemps, les palaces avaient une clientèle étrangère, donc rien que cela. Mmh. Quand vous regardez le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, les livres de cuisine régionale qui sont les plus traduits sont les livres sur la cuisine provençale. Alors, quand on dit cuisine provençale, on pense à tomate.
Ouais.
Mais n'oublions pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. La tomate, elle n'était pas là avant le XVIIe siècle. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'une cuisine provençale avant la tomate ? En gros, tout le pourtour méditerranéen, sans la tomate aujourd'hui, on se poserait des questions. Mais ouais. pourtant, la cuisine, elle était déjà là. Il y avait une cuisine déjà.
Donc, alors, ça veut dire que c'était quoi ? On a peu d'idées de ce qu'était la cuisine provençale avant la tomate ?
Oui, on en a une. C'est une cuisine, certes, où il y a de l'huile d'olive, mais c'est une cuisine aussi qui utilise d'autres matières grasses, du saindoux, du beurre, de la viande, certes déjà aussi des végétaux, mais des végétaux locaux. Mmh. Voilà. Et donc, quand la tomate arrive, alors c'est évident que la tomate va totalement transformer cette cuisine provençale. On a un témoin du XVIIe siècle qui fait un voyage de Paris jusqu'en Italie, qui passe en Provence. Au XVIIe siècle, il nous explique en fait que la cuisine provençale ressemble beaucoup à la cuisine italienne. Il explique que s'il n'y avait pas, en gros, les Alpes, on croirait être en Italie. Voilà. Et quelques décennies plus tard, on a d'autres témoins qui nous expliquent là, oui, la cuisine provençale a une identité particulière. Mmh. Et j'avais fait une étude en m'appuyant sur la notion à la provençale, pour voir comment on pouvait pister une cuisine régionale. Et à la provençale, l'appellation en tant que telle, elle apparaît au début du XVIIIe siècle. Et quand on regarde toutes les recettes qui s'appellent à la provençale, on est quand même très surpris de voir que, en gros, jusqu'au XIXe siècle, le beurre est très présent dans la cuisine provençale. Alors les olives sont là, l'huile malgré tout est là, mais le beurre, la crème, tous ces produits aujourd'hui qu'on dit de la Normandie, de la Bretagne, je suis de l'Ouest de la France, donc je connais bien ces produits, ils étaient très présents dans la cuisine provençale.
Donc les identités évoluent. Hein, et ce qu'on croit de toute éternité sur certaines cuisines et sur certaines régions ne l'a pas été. C'est intéressant
c'est
de
exact.
Savoir. Si on considère certains plats, vous parliez de pister un peu les cuisines régionales, pour certains plats, l'origine est disputée par plusieurs régions. Si on pense au cassoulet, si on pense à la ratatouille ou au beurre blanc, vous pouvez nous éclairer là-dessus.
Oui.
On va réveiller des querelles de clochers.
Des querelles de clochers qui existent toujours. Alors, juste avant ces plats-là, je me rappelle d'un plat, le gratin dauphinois.
Ouais.
Très bon gratin dauphinois. Le gratin dauphinois est fait avec des pommes de terre. Donc, quand une personne vous dit le gratin dauphinois existe depuis le Moyen-Âge, se poser des questions. Donc ça montre bien comment une cuisine locale, une cuisine régionale a une forte valeur identitaire et culturelle.
Ouais.
Concernant le cassoulet, on a historiquement, alors je pense que c'est moins vrai aujourd'hui, mais il y a eu une vraie querelle de clochers au tournant du 19e et du 20e siècle pour savoir quelle était l'origine, du moins quelle était la ville qui avait créé le cassoulet. entre Castelnaudary, Toulouse et Carcassonne. Ouais. Mais alors, on a des textes assez incroyables, où même des journalistes parisiens écrivent des textes par texte interposé, se crêpent le chignon, on peut dire ça comme ça, à tel point qu'un président de la République va intervenir pour calmer le jeu.
Ah oui.
Donc on voit bien qu'à ce moment-là, c'est lié à cette identité française régionale qui se développe vraiment au XIXe siècle et qu'on affirme au travers des cuisines.
Mais vous ne tranchez pas le débat, pour le coup, pour le cassoulet, vous ne vous mouillez pas en donnant...
Selon les auteurs que j'ai lus, et notamment le Larousse gastronomique de 1938, donc je m'appuie quand même sur quelque chose, et sur les ouvrages des cuisiniers, notamment le dictionnaire de cuisine de Joseph Fabre et bien d'autres personnages, c'est Castelnaudary qui serait le premier, cette ville qui aurait plus ou moins mis en avant le cassoulet.
On vous transférera les messages de tous les auditeurs qui habitent dans les autres
mais
villes.
Mais on ne rejette pas les autres. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à parler d'une trinité des cassoulets.
D'accord.
Voilà, une trinité des cassoulets, c'est presque religieux.
Il y a un débat aussi sur le beurre blanc.
Oui, le beurre blanc. Le beurre blanc entre deux régions de l'Ouest, entre l'Anjou et l'Anjou et la région de Nantes. Et là aussi, aujourd'hui, on en parle encore. Si vous allez en Nantes, vous parlez du beurre blanc. Ah, c'est nous qui avons créé le beurre blanc. Si vous allez à Angers, vous parlez du beurre blanc. Ah, c'est nous qui avons créé le beurre blanc. Et on a des textes au début du XXe siècle où on nous présente des cuisinières, une cuisinière angevine, une cuisinière nantaise qui s'interpelle comme ça au travers du beurre blanc. Et en fait, j'ai un peu calmé le débat dans un texte, parce que j'ai expliqué que le beurre blanc, il existe depuis le XVIIe siècle, mais il s'appelait pas tout à fait beurre blanc à ce moment-là, et que le beurre blanc du XVIIe siècle étant des livres de cuisine aristocratique qui ne font nullement référence à une de ces deux régions.
Ah ben voilà, ça vous renvoyez tout le monde dos à dos.
Et ça montre bien que la cuisine régionale, elle bouge aussi, notamment parce que les frontières régionales bougent, et parce que la cuisine elle s'adapte constamment à l'évolution de la société.
Et si on allait faire un tour dans une cuisine basque?
Là, on taille de la chistora, de la très bonne chistora d'Eric. C'est notre merguez, en fait, ici, à nous.
Oui.
Donc, ce matin, on a trouvé des chipirons.
Oui.
À la criée de Saint-Jean.
Oui.
Et donc, on va associer les deux.
Voilà. Et là, on était en train de
préparer. Ah, il m'a mis un sacré défi ce matin. Il fallait que j'associe la poitrine et le jambon avec du poisson. Donc j'ai fait de la lotte roulée au jambon et j'ai fait des petits haricots avec persil, piquillos et la poitrine. Que du basque.
Que du basque.
Que du basque.
Donc là, il y a les haricots sont comment là?
Alors les haricots, ils sont cuits normalement avec des carottes, des oignons. Et ensuite, je suis venu rajouter mon wasabi que dit Eric.
Moi, ça, je sais pas ce que c'est ça.
Qu'est-ce que c'est ce wasabi basque?
On dirait du wasabi.
Le wasabi basque, c'est le persil et l'ail.
Une escapade de Jean-Luc Petit-Renaud au Pays Basque. Alors, on a toute la tradition, les produits de terroir, et tout d'un coup, au milieu de tout ça, le wasabi, qui est quelque chose qui vient du Japon, mais qui est retravaillé avec des produits locaux, et le wasabi basque devient un mélange d'ail et de persil.
Oui, mais c'est là qu'on voit toute la subtilité et toutes les saveurs culinaires, en fait, qu'elles soient nationales ou régionales. Les cuisines s'adaptent, les cuisiniers et les cuisinières s'adaptent aux nouveaux produits, en fait. Et là, c'est très intéressant dans cet exemple. On est dans un contexte de cuisine traditionnelle dite basque, mais en même temps, cette cuisine basque, elle est du 21e siècle. Ouais. Donc elle s'adapte aux consommateurs, elle s'adapte à nos goûts d'aujourd'hui. Je donnerai un autre exemple, le quinoa qui s'est imposé sur nos tables en quelques années. Maintenant, on nous sort beaucoup de recettes de quinoa, voire même des recettes de quinoa qui vont devenir à terme des recettes régionales.
Et oui.
Et le kiwi, c'est pareil. On a des régions françaises qui nous produisent du kiwi. C'était impensable il y a quelques décennies. Donc on voit bien que la cuisine évolue les traditions. La tradition, on a souvent une idée reçue sur le mot tradition. Mais le mot tradition, étymologiquement, ça vient du latin transmittere, c'est-à-dire transmettre. Transmettre des savoirs. Mais transmettre des savoirs, ça ne veut pas dire des savoirs figés.
Ah oui, on transmet et on transforme.
Et on transforme, c'est exactement ça.
Patrick Rambourg, vous allez nourrir la curiosité gourmande de nos auditeurs en répondant à quelques-unes des questions qu'ils vous ont adressées via franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac.
You brought roses and wine, then ran out of time. Where you going to? Said you'll be back at nine, a comfort to my mind. Am I a fool? Do you really care, my lover, my friend? and stay with me till the bitter end, or is this our last goodbye? No more roses and wine with you.
The Swine, c'était Alani sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Eh bien, si bien souvent nous avons permis de percer le secret des recettes bourbonnaises, aujourd'hui c'est une recette plus que régionale, je dirais même nationale, que nous allons vous permettre de découvrir, puisqu'en effet, beaucoup de Français d'Afrique du Nord ont apporté avec eux la tradition du couscous.
Il faut amalgamer pour 8 personnes 500 g de semoule grosse et 500 g de semoule fine en mouillant légèrement les grains d'eau froide salée. Pour réussir cette délicate opération, comme Madame Hélène Gilles, procédez avec les mains dans un mouvement tournant et éliminez les grumeaux en passant la semoule dans un grand tamis. La graine ainsi obtenue est placée dans une grande passoire appelée couscoussier qui s'adapte sur une marmite remplie d'eau bouillante où elle va ainsi cuire tout doucement à la vapeur.
Et voici donc la recette du couscous, là encore un plat venu d'ailleurs, mais que nous avons adopté, mais au point d'en faire presque un plat national.
Ah, mais c'est considéré pratiquement comme un plat national. Il y a eu deux sondages, l'un en 2006 et l'un en 2011. On a posé la question aux Français, quel est votre plat préféré ? Et dans le trio de tête, le couscous est apparu. Donc dans le premier sondage, c'était la blanquette, le couscous, et je crois après c'était les moules frites. Et dans le deuxième sondage, donc quelques années après, le couscous arrivait en troisième position. Mmh. Donc on voit bien que les Français s'accaparent un plat venu d'ailleurs, dès lors que ce plat correspond tout à fait à leur souhait et à leur volonté de consommer.
Et Patrick Rambourg, est-ce que l'on sait quand le couscous est arrivé dans nos assiettes et par quel chemin ?
Oui, alors il est... Son arrivée est beaucoup plus ancienne qu'on ne le pense. On a souvent tendance à dire que c'est avec l'arrivée des pieds noirs, suite à la fin de la guerre d'Algérie. On peut recadrer ça parce que, en fait, le couscous, on en parle déjà dès la Renaissance. Par exemple, Rabelais, dans son ouvrage, nous parle de couscous. Ensuite, on a des voyageurs qui vont en Afrique du Nord, en Afrique noire, qui nous parlent du couscous. Alors, le couscous de blé dur, le couscous de millet, dans l'Afrique noire, c'est le couscous de millet que l'on prépare. Quand on dit couscous à l'époque, c'est à la fois la semoule, mais et aujourd'hui encore, bien sûr, la semoule et le plat tout entier. Et alors, on a, n'oublions pas que la France a eu un empire colonial.
Ouais.
Empire colonial, avec quand même une bonne partie de l'Afrique noire, ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb, etc. Et que donc, il y a eu des influences de part et d'autre. Et que les Français qui s'installaient dans ces territoires, bien sûr, adaptaient leur cuisine au lieu, aux ingrédients locaux. Et quand ils revenaient, bien sûr, forcément, ils revenaient avec des cultures culinaires donc de ces pays. Et le couscous, par exemple, lors des expositions universelles à Paris, 1889, sur la place des Invalides, il y avait le café Maure, M-A-U-R-E, où l'on faisait un très bon couscous, nous dit-on. Et Hédiard, en 1900, vendait du couscous en plein Paris. Vous voyez, comme quoi, cette histoire de couscous est beaucoup plus ancienne qu'on ne le pense. Et aujourd'hui, dans un simple petit village du Berry, par exemple, j'ai été il y a pas si longtemps que ça dans le Berry, une fête locale, une association, quel était le plat principal ? Le couscous.
Allez, plusieurs questions d'auditeurs qui sont arrivées pour vous, Karl, qui vous demande, pourriez-vous nous donner une recette à refaire à la maison ? J'imagine une recette médiévale, un plat qui date.
Oui, par exemple, une recette médiévale. Donc, il y a une recette que j'aime bien, que j'ai déjà faite plusieurs fois, c'est le civet d'huître, en fait.
D'accord.
Puisqu'il n'y a pas que civet de lièvre, il y a aussi civet d'autre chose. Elle est facile à faire, parce que bon, pour y aller assez rapidement, on fait une compotée d'oignons. On fait une sauce à base du jus des huîtres, du vin blanc, du safran, de la cannelle, voire un petit peu de gingembre. On fait bouillir ça et on lit ça avec du pain. Après, alors aujourd'hui, on peut utiliser le mixeur, hein, c'est plus vite. Mmh. Et puis, les huîtres qui ont été décoquillées sont pochées légèrement, en fait, dans leur propre jus. Et au moment de servir, on met une petite compotée sur une assiette. On met un petit cordon de cette sauce un peu épicée autour. Et les huîtres sont légèrement raidies dans une poêle à l'huile de noisette. Et je peux vous dire que c'est très bon.
On faisait ça à quelle époque, alors, en France ?
Là, 14e, 15e siècle.
14e, 15e siècle. Vous nous enverrez la recette écrite et puis on la mettra sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter, on la mettra aussi sur franceinter.fr. Une autre question, Jean-Paul, qui vous dit « La consommation de grenouilles ou d'escargots qui nous vaut de la part des Anglais des remarques, sont-elles récentes ?»
Non, elles sont anciennes. C'est-à-dire que les Anglais nous font des remarques, nous caractérisent comme les mangeurs de grenouilles, les mangeurs d'escargots.
Depuis des siècles.
Mais depuis des siècles, mais nous, on aime les grenouilles et les escargots depuis au moins le Moyen-Âge. On a des traités culinaires. Le Ménager de Paris, 1393, nous donne une recette de renouilles. Il appelait ça des renouilles pour les cuisses de grenouilles. Et il nous donne une recette aussi de grenouilles qu'il appelait limaçon à l'époque.
Ah bon?
Oui. D'accord. Et il nous explique même comment pêcher les grenouilles. Avec un petit tissu rouge. Voilà. Et moi, ça me rappelle les souvenirs, parce que quand j'étais gamin, j'ai pêché les grenouilles comme ça, avec un petit bout de laine rouge.
Aujourd'hui, je crois qu'il ne faut plus le faire, hein, pêcher les grenouilles, elles sont protégées.
Et plus on avance, quand on regarde les livres de cuisine du 16e, 17e, 18e siècle, les recettes de grenouilles et les recettes d'escargots se multiplient. Elles sont considérées, dans un premier temps, comme des mets gastronomiques et riches, sur la table des riches et non pas sur la table des pauvres.
Une dernière question de Catherine, justement. Quelles étaient les différences entre le régime alimentaire des gens du peuple et les seigneurs en leur château ?
Déjà, il y a ce que j'appellerais le goût de nécessité, pour les plus modestes, hein, et le goût alors bourgeois ou aristocratique pour ceux qui avaient les moyens. C'est-à-dire que le goût, il se définit par rapport à l'accès à la nourriture. Ceux qui ont les moyens, donc le seigneur, l'aristocrate ou le grand bourgeois des villes, il s'achète à peu près ce qu'il veut. Celui qui est le peuple le plus modeste dans les campagnes, il ne mange que ce qu'il a plus ou moins à sa disposition.
Et alors c'était quoi ce qu'il avait à sa
disposition ? Selon les régions, par exemple, les châtaignes qui étaient très présentes dans les Cévennes et très présentes en Corse pendant très très longtemps, c'était du pain de châtaigne, de la polenta, des bouillies, etc. Dans les villes, paradoxalement, les plus modestes mangeaient mieux ou avaient un accès plus facile à la nourriture que ceux des campagnes. Alors généralement, c'est une viande assez végétarienne, légumes secs. La viande n'était présente principalement que dans un contexte de fête religieuse, mariage, ou les vendanges, dans les régions à vigne, ou la fin des travaux agricoles, etc., dans les campagnes. Mais il y a une sacrée différence de nourriture, c'est évident. Ceux qui mangent de la viande et de la viande fraîche, c'est d'abord et avant tout les riches.
Merci Patrick Rambourg. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Histoire de la cuisine et de la gastronomie française, aux éditions Tempus, et L'art et la table, chez Citadelle et Masneau. Un grand merci à vous d'être passé par notre bivouac, nous régaler. Je vous présente notre invité de la deuxième heure. Bonjour Sophie Doudet.
Bonjour.
Vous allez nous emmener sur les pas d'André Malraux. Il fut ministre, écrivain, essayiste, orateur de génie. Mais tout au long de sa vie, il n'a eu de cesse de sillonner le monde. Nous allons voir que ses voyages ont eu une influence déterminante sur son parcours. Nous partons donc dans un instant avec vous, Sophie Doudet, sur les pas de l'auteur de La Condition Humaine.